Avez-vous déjà pensé, ah, si seulement je n'avais pas pris cette décision stupide. Oh, si j'avais su que ça me conduirait droit dans le mur. Si seulement je pouvais effacer cet épisode misérable de ma vie et tout recommencer. Oh, si seulement je pouvais repartir à zéro. Si j'avais su résister à cette tentation. Mais la vie se poursuit inexorablement et je refais les mêmes bêtises. Et au fond, je crois que si je pouvais recommencer à zéro, je referais les mêmes erreurs. Je retomberais dans les mêmes ornières. La question qu'on se pose, mais est-ce qu'il y a un moyen d'échapper à ce cercle vicieux? Ce cercle vicieux de mon être? En fait, il faudrait pouvoir mourir et renaître. Mais renaître avec une autre nature. Renaître différent. Ah, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est ce que Jésus offre à Nicodème ici. Une nouvelle naissance. La possibilité de tout recommencer, de repartir à zéro. Et c'est aussi ce qu'il offre à chacun d'entre nous. Ce matin, je vous propose de voir cette nouvelle naissance. On verra tout d'abord sa nécessité, on verra ensuite sa nature, et puis enfin son moyen. Regardons tout d'abord la nécessité de la nouvelle naissance. Dans notre passage, le texte commence verset 1, « Mais il y eut un homme ». Mais il y eut un homme. C'est comme si on peut penser que Nicodème avait des dispositions vraiment différentes des personnes dont Jésus, en qui Jésus ne se fiait pas. Hein. Ils croyaient en lui, mais lui ne croyait pas en eux. Il y avait comme un décalage dans leur cœur. Et Jésus, lui, il connaît le cœur de Nicodème et il accepte une entrevue privée. Même si rien ne nous laisse penser que Nicodème soit né de nouveau ce soir-là ou cette nuit-là, on sait que ce rendez-vous avec Jésus a bouleversé son cœur. Parce qu'au chapitre 7, il va prendre la défense de Jésus devant le Sanhédrin. Et puis ensuite, au moment de la crucifixion, Nicodème sera là, au pied de la croix, au calvaire. Et puis, il ira chercher le corps pour offrir au corps du Seigneur, eh bien, une sépulture. Ils deviendront donc disciples de Christ. Ici, il vient de nuit, probablement pour éviter que l'opinion publique ne le considère trop vite comme un partisan, comme un sympathisant de Jésus. Peut-être vous êtes venu ce matin incognito. Votre entourage pense que vous êtes parti au marché, puis vous êtes là. Vous êtes comme Nicodème, vous êtes interpellé par la personne de Jésus, mais vous n'osez pas vraiment le dire. Ça travaille dans vos cœurs, mais vous ne savez pas quoi penser. Sans les avoir racontés, Jean a mentionné des miracles que Jésus avait faits au chapitre 2, verset 23, en plus de l'eau changée en vin. Et Nicodème, il est vraiment troublé par ça. Il dit, mais ce rabbin-là, c'est pas un rabbin comme tous les autres. Personne ne fait ce genre d'œuvre s'il ne vient de Dieu, véritablement. Et il est sceptique, il est troublé par cela. Alors, il ne sait pas quoi penser. Est-ce que Jésus, c'est plus qu'un rabbin? Et il dit, nous savons, hein, vous avez vu au verset 2, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il est venu tout seul, hein, mais il dit, nous savons. Vous savez, ça l'implique moins. Et si vous dites, je sais, déjà vous êtes, mais là, nous savons. Oui. Il est travaillé. s'abrite derrière ses collègues, derrière les hommes en général. Et puis, il ne pose pas vraiment de questions non plus. Il dit, nous savons que aucun homme ne peut faire ses œuvres s'il ne vient de Dieu. Nous savons, en fait, lui, il est rabbin. Donc, c'est lui qui enseigne d'habitude. Alors, il ne peut pas dire, j'ai une question, est-ce que... Non, non, il est rabbin, il sait. Il est censé savoir, en tout cas. Mais quand même, implicitement, c'est comme s'il posait la question, mais qui es-tu? Es-tu vraiment le Messie? Nicodème, lui, c'est un juif, un pharisien, c'est-à-dire un religieux. Il est circoncis, il est respectueux de la loi et de toutes les règles et les traditions des hommes. C'est un homme pieux, c'est un chef des Juifs. Un chef des Juifs, ici, c'est l'idée qu'il fait partie des 71 hommes qui siègent au concile, c'est-à-dire au Sanhédrin. 71 hommes qui dirigent, au fond, la vie d'Israël. C'est pas n'importe qui. Jésus l'appelle... au verset 10, le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël. Vous imaginez, c'est un enseignant connu et reconnu en Israël. Ce serait aujourd'hui, pour donner un peu une équivalence, une espèce de député-évêque, et puis enseignant et doyen au grand séminaire de Toulouse. Et Jésus lui répond, verset 3, en vérité, quand Jésus dit en vérité, ça c'est une expression qui est propre à l'évangile de Jean. Mais quand il dit en vérité, ça signifie ce qui suit est super important. Ce qui suit est super important. Et écoutez ça. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous imaginez la chose? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, dans la pensée juive de l'époque, et Nicodème l'a très bien compris, c'est avoir part au royaume éternel, c'est avoir la vie éternelle, c'est savoir que après la mort, je vais vivre éternellement dans la présence de Dieu, c'est ça. Vous imaginez un peu le choc que ça représente pour cet homme. Jésus, on dirait cash aujourd'hui, il est direct. Il ne tourne pas autour du pot comme Nicodème avait commencé à le faire. Il lui dit, tout religieux que tu es, membre respecté et consciencieux d'Israël et du Sanhédrin, avec toutes tes connaissances, tes efforts et toutes tes bonnes œuvres, tu n'es pas encore entré dans le royaume de Dieu. Si tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Tout ce sur quoi tu fondes tes espoirs ne compte pour rien. Imaginez la chose. C'est le choc. Il faut que tu naisses de nouveau. Imaginez que si Nicodème, avec son savoir, ses dons, sa compréhension, sa position, son intégrité, ne pouvait entrer dans le royaume de Dieu en vertu de ses œuvres et de sa position, quel espoir pourrait bien nourrir quiconque chercherait le salut dans cette voie. Aucun espoir. Alors peut-être vous avez une certaine connaissance de Dieu. Vous avez peut-être même appris des passages dans les Écritures quand vous étiez petit. Vous avez peut-être chanté des cantiques. Vous êtes né dans une famille chrétienne. Vous connaissez les histoires de la Bible. Nicodème aussi. Vous avez peut-être une religion, vous jeûnez, vous priez. Nicodème aussi. Mais Nicodème ne peut voir le royaume de Dieu. C'est terrible. Tous nos efforts, toute notre religiosité, toutes nos connaissances ne peuvent nous assurer le royaume de Dieu. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ça n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Il faut que vous naissiez de nouveau. Mais peut-être vous dites, mais c'est quoi naître de nouveau? Je veux bien naître de nouveau, mais qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Et vu la réaction de Nicodème au verset 4, hein, il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Il n'a pas compris. Alors Jésus lui explique, hein, verset 5, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, il est en train de dire, la nouvelle naissance, naître de nouveau, ça, c'est la même chose que de naître d'eau et d'esprit. C'est beaucoup plus clair. En tout cas, ça devrait l'être pour Nicodème, parce que Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Ça semble une évidence, non? Alors c'est quoi un être d'eau et d'esprit? Certains y voient dans l'eau une image de la naissance physique, comme le liquide amniotique, mais ça colle pas vraiment. Parce que il dit que la nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. Donc, ici, on parlerait que de la naissance antérieure. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Et puis, rien ne nous laisse penser que les Juifs de l'époque pensaient à la naissance physique comme la naissance d'eau. D'autres pensent que ça fait référence au baptême de Jean-Baptiste, le baptême de repentance. Ça peut, mais ce n'est pas sûr que l'eau soit une référence au baptême ici. D'autres encore, et c'est l'interprétation la plus naturelle, il me semble, pensent que ça fait référence à une vérité de l'Ancien Testament. Une vérité que Nicodème est censé connaître parfaitement. Et à la décharge de Nicodème, l'expression « naître d'eau et d'esprit » ne fait pas partie du vocabulaire de l'Ancien Testament. Par contre, les ingrédients, l'eau et l'esprit, se trouvent fréquemment. Et notamment en Ézéchiel 36, je vous propose de faire lire quelques versets ici. Et ce passage d'Ézéchiel 36 et 37, c'est deux passages extrêmement importants dans le livre d'Ézéchiel, parce qu'il est en train de parler d'une restauration d'Israël et d'une transformation d'Israël. Ézéchiel, il a parlé à une époque où le peuple avait été envoyé en déportation. Et il dit, cette déportation, c'est le fruit de toutes vos mauvaises œuvres, de tous vos péchés. Et il dit, maintenant je vais vous ramener, vous allez repartir à zéro. Mais déjà, le peuple pense, mais si je repars à zéro et que je suis le même, je vais recommencer les mêmes bêtises. Et voilà pourquoi le Seigneur dit ceci, écoutez, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Écoutez, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voyez la chose ici. Il parle de ces deux ingrédients. L'eau, mais une eau qui a la capacité de purifier le cœur. De nous laver de nos idoles, c'est-à-dire c'est de l'eau, mais pas qui lave la surface, c'est de l'eau qui lave le cœur, qui change notre cœur. Et puis il parle du Saint-Esprit, hein, qui permet aux hommes de suivre pleinement Dieu. Et donc sans cette purification et sans ce renouvellement spirituel, personne ne peut entrer dans le royaume. On voudrait repartir à zéro, mais la souillure demeure dans notre cœur. Dans le prophète Jérémie, Dieu dit, quand tu te laverais avec du nitre, Quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. C'est-à-dire, on ne peut pas laver son cœur. Ici-bas, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de potasse, il n'y a pas de soude qui est capable d'effacer nos transgressions, de laver notre cœur et de nous faire repartir comme un homme nouveau. Mais Jésus dit, j'enverrai, je vous donnerai une eau pure. Une eau qui a cette faculté d'effacer, de laver vos cœurs, de purifier vos consciences, de vous pardonner toutes vos fautes, de les effacer. Et on pense que si on pouvait repartir à zéro, on recommencerait les mêmes erreurs parce que nous serions les mêmes. Mais Jésus dit ici qu'il change nos cœurs, qu'il nous rend capables par son esprit de suivre une nouvelle voie. Il parle d'un changement, c'est-à-dire comme d'une transplantation cardiaque. Il dit « J'ôterai de vos corps le cœur de pierre, un cœur qui est insensible, qui est incapable d'aimer vraiment Dieu et son prochain. Et puis je vais vous donner un cœur nouveau qui soit capable de répondre à l'amour de Dieu. » Un cœur qui va désirer le suivre. On se rend bien compte que nos cœurs ont besoin d'être changés parce que naturellement, on n'aime pas Dieu, on ne veut pas aller vers lui, on ne veut pas le suivre, ses voies ne nous intéressent pas. Et c'est pour ça que Dieu dit, je vais changer vos cœurs. Je vais changer vos cœurs. Jésus ajoute au verset 6 et 7, hein, il explique que tout cela, c'est spirituel. C'est une œuvre spirituelle qui va bouleverser notre être. Verset 7, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Là, il ne s'adresse plus seulement à Nicodème, mais il s'adresse à tout le genre humain. Verset 8, Jésus explique que cette nouvelle naissance, elle n'est pas visible à l'œil. Il dit, vous voyez le vent, on sait qu'il y a du vent, mais on ne voit pas le vent. On voit simplement les effets du vent. On voit que les feuilles des arbres bougent, alors on dit, oui, il y a du vent. C'est pareil pour la nouvelle naissance. On ne voit pas comment Dieu intervient dans un cœur. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans votre cœur à l'instant. Mais son esprit peut se manifester et provoquer une transformation de dans votre vie, dans vos cœurs. On ne sait pas toujours très bien expliquer comment Dieu nous sauve, mais il nous sauve. Et sa présence dans nos cœurs change notre manière de penser, de vivre. Nous connaissons vraiment une paix, nous connaissons vraiment une assurance. Parfois, on imagine la nouvelle naissance comme quelque chose de spectaculaire. Mais ce n'est pas ce qui est dit ici. L'œuvre du Seigneur s'opère sans que nous sachions exactement comment. Mais on sait que l'œuvre est faite. Vous savez, on ne se souvient pas de notre naissance physique. On nous a dit qu'on est né tel jour. On nous a dit que c'était à tel endroit. Mais nous, on n'a aucun souvenir de cela. Pourtant, aucun d'entre nous ne doute qu'il soit né. Pourquoi ? Parce que nous vivons aujourd'hui. Et il en est de même pour l'œuvre, la naissance spirituelle. On ne sait pas exactement quel jour, quelle heure peut-être. On ne sait pas exactement à quel moment Dieu est intervenu dans nos vies. Mais on peut dire, je sais qu'il l'a fait. Je sais que je suis né de nouveau. Je sais que je suis pardonné de mes fautes. Je sais que je vis pour l'éternité. Je sais que je suis un enfant de Dieu. La nouvelle naissance est une nécessité absolue. On vient de voir sa nature, une œuvre spirituelle dans nos cœurs. Voyons à présent son moyen. Comment est-ce que cela peut-il se faire? Et ça, c'était la question de Nicodème au verset 9. Et Jésus lui dit, il lui répond, c'est assez dur ou assez cash, il lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Vraiment, on a l'impression que Nicodème, il devrait connaître ça parfaitement. On a le sentiment que c'est l'essentiel de son programme, normalement, qu'il devrait connaître par cœur. Comme si Jésus lui disait, mais je me demande bien ce que tu es en train d'enseigner à tes élèves. Ou c'est comme s'il disait à un prof de maths, mais tu n'as pas compris les multiplications. Mais qu'est-ce que tu enseignes à tes élèves? C'est le béaba. Et puis là, dans les versets 11 à 13, je passe rapidement. Mais Jésus est en train de dire, en vérité, nous disons ce que nous savons. Nous enseignons ce que nous avons appris. D'accord? Ça doit troubler. Et puis, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et Jésus est en train de dire, j'ai en train d'expliquer que j'ai quitté le ciel. Je suis en train de t'expliquer comment on va au ciel. Il dit, il y en a un seul qui ait quitté le ciel pour venir sur la terre et qui retournera au ciel, c'est moi. Si tu ne reçois pas mon témoignage, comment est-ce que tu peux, en qui tu vas placer ta confiance? Et Jésus lui dit, il faut croire maintenant. Vous vous rendez compte, Jésus, il a appelé Dieu son Père dans les heures qui ont précédé. Il dit, vous avez fait la maison de mon Père une caverne, un repère de un commerce. Et puis, quand il va nettoyer le temple, là, il n'est pas en train d'agir comme un visiteur, comme un touriste. Oh là là, non, non, il agit comme le propriétaire des lieux. C'est chez moi. Et puis, il change l'eau en vin. Qui est capable de faire une chose pareille? Et puis, la Bible dit qu'il a fait plusieurs miracles. Et puis, Jean-Baptiste, il dit avoir vu le Saint-Esprit descendre et s'arrêter sur Jésus au moment de son baptême. Il a dit, c'est l'agneau de Dieu. Et Nicodème, il peut pas ignorer l'enseignement de Jean-Baptiste. Alors, il faut croire maintenant. Et l'enseignement que Nicodème devrait pouvoir répandre dans tout le pays, c'est la foi en Dieu, en celui et en son Fils qu'il a envoyé. Et c'est pour ça qu'il dit ça jusqu'au verset 14 et 15, où il cite verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et là, Jésus fait une référence à un épisode que tout Israël connaît. C'est cet épisode après la sortie d'Égypte. Ils sont dans le désert et puis Dieu a déjà envoyé la manne et puis il fait jaillir l'eau du rocher. Et puis le peuple est constamment en train de râler, de gémir, de se plaindre. Et voilà, on en a marre de cette manne qui nous est donnée tous les matins. Waouh ! Et Dieu envoie des serpents à ce moment-là. Ça fait plusieurs fois qu'ils sont vraiment médisants. Ils se plaignent contre Moïse et ils parlent contre Dieu. Alors Dieu les châtie et il envoie des serpents. Et ces serpents commencent à mordre le peuple. Et le peuple commence à être décimé. Alors ils reviennent vers Moïse. Il dit, Moïse, on a mal parlé contre toi et contre Dieu. Et là, il a envoyé des serpents. Plaide notre cause, demande à Dieu de nous pardonner, d'éloigner ces serpents. Alors, Dieu ordonne à Moïse de faire un serpent en bronze, de le mettre sur une perche, de planter cette perche au milieu du camp, de sorte que chaque fois que quelqu'un aura été mordu par le serpent, il regarde à la perche, il regarde au serpent de bronze et il est guéri. Il évite la mort. n'est pas le serpent en lui-même qui guérit, mais la grâce de Dieu reçue par la foi. D'ailleurs, ce serpent d'airain a été détruit par la suite parce qu'on en avait fait un sujet d'idolâtrie. Mais en Israël, j'imagine que il y en avait quelques-uns qui disent, mais attends, j'ai été mordu par un serpent, le fait de tourner ma tête, de regarder au serpent de bronze, ça va me guérir. Non mais, quel est le lien? Eux, ils savaient mieux. Il y en a qui ont dit, ah non, mais ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est mettre un cataplasme avec des feuilles sur la plaie. Ceux-là sont morts. D'autres ont dit, ah non, mais il faut brûler la plaie. Ils ont été mordus, ils ont été brûlés, et puis ils sont morts. D'autres ont dit, ah non, il faut aspirer le venin. Et ils sont morts. D'autres ont dit, non, c'est une tisane qu'il faut prendre. J'aime pas la tisane. Et ils sont morts. D'autres ont dit, on va offrir un sacrifice. Et ils sont morts. D'autres ont récité des prières. Et ils sont morts. D'autres ont brûlé des cierges, fait des pèlerinages, fait des régimes. Ils sont tous morts. Les seuls mordus qui ont survécu, ce sont ceux qui ont tourné les regards vers le serpent de bronze fabriqué par Moïse, selon la parole de l'Éternel. C'est-à-dire, ce sont ceux qui ont cru la parole de Dieu. Ils ont appris à mettre leur foi dans ce que Dieu a dit, plutôt que dans toutes les œuvres que eux pouvaient faire. Regardez, c'est croire. Regardez, c'est se fier à ce que Dieu a dit. Il n'y a aucun mérite à regarder. C'est la chose la plus facile qui soit. Elle ne demande aucun effort, aucune connaissance particulière, pas besoin d'aller à l'université pour regarder. Regardez le serpent, c'est la seule chose aussi que pouvait faire celui qui avait été mordu et qui était dans l'agonie. Aussi loin qu'il était, simplement en tournant ses yeux, fixant le serpent de bronze de Moïse, il était guéri. Il vivait. Regardez, c'est croire. Et Jésus dit ici, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ici, l'expression « soit élevé », c'est « il faut qu'il soit crucifié, lui aussi porté sur le bois, entre ciel et terre. » Il dit « afin que quiconque croit en Christ et la vie éternelle. » Le moyen de la nouvelle naissance, c'est la foi. La foi, c'est simplement croire que Jésus est bien celui qu'il a prétendu être. C'est croire qu'il peut faire ce qu'il a promis de faire. C'est s'engager, c'est se confier. Ici, c'était tourner la tête et les yeux vers le serpent. Ici, c'est placer sa confiance dans ce que Jésus-Christ a accompli pour vous à la croix. À la croix, Jésus a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui, par la foi en lui, justice de Dieu. Et verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » ici, Jésus dit, ce qui a poussé Dieu à faire ce don merveilleux, ce qui a poussé Dieu à livrer son Fils, à le laisser être cloué sur le bois, à porter notre malédiction, c'est qu'il a aimé le monde impie. Il a aimé les pécheurs que nous sommes. Il n'y a rien en nous qui puisse susciter l'amour de Dieu. Mais parce qu'il est bon, parce qu'il est lui-même amour, il sauve ceux qui ont foi en lui. C'est extraordinaire. L'amour de Dieu est capable d'embrasser chaque pécheur. Il a la capacité de sauver chacun d'entre nous. Personne ne peut dire « ça ne me concerne pas, j'échappe au radar de Dieu ». Non, Dieu a tant aimé le monde. Tous ne seront pourtant pas sauvés, comme le montre le contexte immédiat dans les versets 17 et 18. Seulement ceux qui auront cru en Christ. J'aimerais terminer avec le témoignage de Luther. Vous avez vu le film Luther ces derniers jours. En 1505, lorsque son ami qui était à ses côtés, a été frappé par la foudre, Luther a fait ce vœu d'entrer au couvent. Mais là aussi, sa conscience ne lui a laissé aucun repos. Voilà ce qu'il dit. « Par la doctrine et les exercices, je dois devenir un homme nouveau. » Mais ce n'est pas le cas. Ni la messe, ni les mortifications, ni les jeûnes ne m'apportent ce que j'appelle de tous mes vœux, l'amour pour Dieu et pour les hommes, la paix intérieure, le vrai repos. Dans le couvent, je ne pensais à rien d'autre qu'à cette question qui faisait trembler tout mon cœur. Comment me rendre Dieu propice, favorable? J'étais un moine pieux, et si jamais moine était parvenu au ciel par moinerie, j'y serais parvenu. Je me serais tué à la longue par mes mortifications, mes veilles, mes prières, mes lectures et tous mes autres travaux. C'est dans cet état que Staupitz le trouve et le retire du couvent pour lui confier une chaire de professeur à Wittenberg. En 1513, dans la tour de Wittenberg, il médite l'Épître aux Romains. Et il est particulièrement frappé par le verset 17 du chapitre 1er. Qu'est-ce que c'est que cette justice de Dieu dont il est question ici? Il dit « Je haïssais le mot justice de Dieu, car par la tradition de tous les docteurs, j'avais pris l'habitude de l'interpréter dans le sens d'une justice formelle ou active, suivant laquelle Dieu est juste et il punit les pécheurs comme les justes. » Ma conscience tournait en rond et pourtant je revenais toujours à ce verset me demandant ce que saint Paul avait voulu dire jusqu'à ce que Dieu eût pitié de moi et qu'après avoir médité constamment ces mots nuit et jour, je fusse rendu attentif à leur lien logique. La justice de Dieu y est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Je commençais à comprendre qu'il s'agissait de la justice dans laquelle le juste vit par la grâce de Dieu offerte en cadeau. Il y vit par la foi. Le sens était donc dans l'Évangile et révélé la justice de Dieu par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous rend justes par la foi. Selon qu'il est écrit, le juste trouve la vie dans la foi. Aussitôt, je sentis que j'étais entièrement né de nouveau et que je venais de pénétrer par la porte ouverte dans le paradis. À présent, toute l'Écriture se montra à moi sous un nouveau jour. Ce verset était devenu pour moi véritablement la porte du paradis. Cette découverte bouleversa sa vie et le monde chrétien d'alors. Luther, c'est un autre Nicodème, un religieux, un homme pieux, Mais toutes ces pieuseries ne pouvaient pas lui offrir la vie éternelle, le pardon. Seule la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ et l'instant où il a placé toute sa confiance de ce que Jésus-Christ avait accompli pour lui, il a trouvé une pleine paix, une pleine sécurité. C'est ce que je prie aussi pour chacun d'entre vous, que vous puissiez naître de nouveau